VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mardi 5 janvier 2016, à la une ce soir.
République centrafricaine, il n'est pas question de stopper le processus électoral. La réponse du gouvernement à une vingtaine de candidats qui rejettent le premier tour de la présidentielle comme une mascarade électorale.
Pour parler de paix inter-burundais, le gouvernement Nkurunziza refuse de prendre part à la session prévue demain en Tanzanie.
En Algérie, le projet de la nouvelle constitution a été dévoilé aujourd'hui, imposant notamment une limite de 2 mandats présidentiels.
D'abord, il y a la constitutionnalisation de la langue amazigh. Ensuite, il y a le non-cumul des mandats.
Le journaliste algérien Saïd Bouzeta.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama annonce de nouvelles mesures pour encadrer le port d'armes à feu, malgré la forte opposition des républicains.
Nous parlerons aussi de la commémoration des attentats qui ont frappé la France l'an dernier.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Le gouvernement burundais ne participera pas aux négociations de paix avec l'opposition et la société civile prévues mercredi à Arusha. C'est ce qu'a annoncé le ministre burundais des Relations extérieures, Alain Nyamitwe. Les précisions de Lionel Gaïma.
Pour Alain Nyamitwe, chef de la délégation gouvernementale à la rencontre préliminaire du 28 décembre à Entebbe en Ouganda, le calendrier de pourparlers n'a pas été arrêté de manière consensuelle. Autre grief du gouvernement burundais, selon Joseph Bagurambona, secrétaire permanent du ministère des Relations extérieures que cite l'agence Reuters, l'inclusion dans les pourparlers de partisans de la violence ou de personnalités non reconnues comme Karine Kaneza, une représentante de femmes. Cette dernière a été limogée en octobre pour faute professionnelle de son poste de secrétaire à l'ambassade du Burundi aux États-Unis, a indiqué Bagurambona. Pour Bujumbura, le dialogue ne reprendra que lorsque les médiateurs internationaux auront résolu les irrégularités et proposé des dates consensuelles. Le gouvernement se livre à des manœuvres dilatoires, affirme de son côté Thacien Sibomana, porte-parole du parti d'opposition UPRONA, qui a appelé au déploiement d'une force internationale dans le pays.
Élections en République centrafricaine, le gouvernement refuse de stopper le processus électoral. Annonce faite alors qu'une vingtaine de candidats à la présidentielle ont exigé l'arrêt des opérations électorales et dénoncé ce qu'ils appellent une mascarade lors du scrutin du 30 décembre. En réponse, le Premier ministre Mahamat Kamoun exhorte les candidats à respecter leurs engagements dans l'intérêt de la nation, rappelant qu'ils avaient signé le code de bonne conduite qui les astreint à certaines obligations de réserve.
À noter également que 2 anciens premiers ministres, Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé, au coude à coude dans la course à la présidentielle. Tels sont les résultats partiels donnés par l'Autorité nationale des élections qui base ses chiffres sur 53% des votes. D'après l'AFP, Dologuélé, l'un des favoris qui a reçu le soutien officiel du parti de l'ex-président François Bozizé, devance pour la première fois l'outsider Touadéra, candidat indépendant et ex-chef du gouvernement sous Bozizé, qui faisait jusque-là la course en tête.
Il faut dire aussi que la France, Morgane, a demandé aux Centrafricains et aux acteurs politiques en particulier de faire preuve de responsabilité. Les contestations éventuelles doivent se faire selon les mécanismes prévus par le code électoral, recommande le gouvernement français. La République démocratique du Congo va libérer environ 2000 prisonniers ce mois-ci, John Linden.
Selon le ministre de la Justice Alexis Tambwe, le gouvernement, à travers cette mesure, veut réduire la surpopulation dans les prisons. Pour les analystes, il s'agit aussi de réduire la tension politique avant l'élection présidentielle prévue pour novembre prochain. Les organisations de droits de l'homme ont salué l'annonce, mais critiqué le gouvernement d'ignorer des dizaines de prisonniers qui, disent-ils, restent en détention pour avoir accusé le président Joseph Kabila d'essayer de se maintenir au pouvoir après la fin en décembre prochain de son mandat. Parmi les 2000 prisonniers, 1200 sont des délinquants qui ont purgé au moins un quart de leur peine et reçu l'approbation du directeur de la prison et du procureur général, a expliqué le ministre de la Justice en précisant que ces prisonniers seront libérés dans les prochaines semaines. Les prisons du Congo sont notoirement surpeuplées et les Nations Unies estiment à 20 000 le nombre de détenus qui s'y trouvent.
Nouveau gouvernement en Guinée. Le président Alpha Condé a formé une équipe ministérielle de 33 membres, alors que 12 ministres de l'ancienne équipe sont reconduits. Les détails avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Un seul de l'opposition, Mohamed Tall de l'UFR, est nommé ministre de l'élevage. Pour le reste, c'est un gouvernement rajeuni, mais surtout féminisé avec cette nomination de femmes à des postes stratégiques. Les départements de l'action sociale, de l'environnement, eau et forêt, les travaux publics, du plan et coopération internationale, de l'agriculture, des affaires étrangères et guinéens de l'étranger, et surtout celui de l'économie et des finances sont confiés aux dames. Au total, 14 nouveaux cadres sont nommés ministres de la République. 16 de l'ancienne équipe sont sortis alors que, parmi ceux qui restent, certains sont confirmés à leur poste, d'autres occupent désormais la tête d'autres départements, c'est le cas de Maître Abdoul Kabele Camara qui quitte la défense pour la sécurité nationale. Deux jours avant, Alpha Condé avait nommé l'ancien Premier ministre Sidya Touré haut représentant du chef de l'État et le Sénégalais Jack Diouf, conseiller spécial du président de la République. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Le Niger est en train de gagner la guerre contre Boko Haram, c'est en tout cas ce qu'indique l'armée, tout en reconnaissant que l'organisation djihadiste nigériane conserve des capacités de nuisance.
La Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme à Djibouti. L'organisation qui dénonce un accroissement de la répression contre l'opposition réclame une commission d'enquête pour éclaircir les circonstances de ce qu'elle qualifie de massacre du 21 décembre. Souvenez-vous, ce jour-là, une intervention policière avait provoqué des affrontements lors d'une cérémonie traditionnelle en périphérie de la capitale. La FIDH affirme que 27 personnes avaient alors été tuées.
Des affrontements se déroulent en Libye entre le groupe djihadiste État islamique et les gardes des sites pétroliers contrôlés par le gouvernement reconnu autour du port de la ville d'Al-Sidra dans le nord du pays.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les tensions entre Téhéran et Riyad ont franchi un nouveau seuil. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu a proposé l'aide de son pays pour apaiser les esprits. Salwa Jafari.
Toutes les parties doivent agir avec du bon sens et les voies diplomatiques doivent être immédiatement établies afin d'éviter des répercussions de ce conflit sur la paix et la stabilité dans la région. En Turquie, nous sommes prêts à offrir toute aide constructive que nous pouvons pour arriver à une solution.
Le Premier ministre turc se fait l'écho d'une appréhension générale. La communauté internationale craint une escalade de la violence dans plusieurs pays où chiites et sunnites sont à couteau tiré. Une grave crise diplomatique oppose Riyad et Téhéran depuis l'exécution le week-end dernier en Arabie Saoudite du dignitaire chiite Nimr Nimr et de 46 autres personnes condamnées pour terrorisme. Ces mises à mort ont provoqué des manifestations de colère parmi la communauté chiite en Irak, au Liban et en Iran, où les représentations saoudiennes ont été attaquées. En représailles, l'Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran. Le Soudan, le Bahreïn et le Koweït ont suivi son exemple peu après.
Réaction en Allemagne suite à une centaine d'agressions sexuelles qui ont été commises à Cologne, dans l'ouest du pays, la veille du jour de l'an. Des témoins ont décrit des suspects d'apparence arabe ou nord-africaine, selon la police, mais le ministre de la Justice a mis en garde contre toute instrumentalisation de cette affaire dans le débat sur l'afflux de migrants en Allemagne. La police dit avoir reçu également une dizaine de plaintes à Hambourg, dans le nord du pays.
La télévision iranienne a montré des images d'une nouvelle base souterraine contenant des missiles d'une portée de 1700 km sur fond de tension avec les États-Unis. L'Iran avait effectué au moins un essai réussi de ce type de missile en octobre et selon des experts de l'ONU, cela constituait une violation d'une résolution datant de 2010. Washington a menacé d'imposer de nouvelles sanctions contre Téhéran à cause du programme balistique iranien.
Un soldat américain a été tué et deux autres blessés en Afghanistan. Cela s'est passé aujourd'hui dans la province méridionale de Helmand, où les forces spéciales américaines menaient une opération antiterroriste.
Le président Barack Obama a annoncé un ensemble de mesures de l'exécutif visant à encadrer le port d'armes aux États-Unis. Et ces décrets ont provoqué la colère de l'opposition républicaine, notamment les candidats à la présidentielle de 2016. Lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche, M. Obama a déclaré, et nous citons, « Nous ne sommes pas un peuple prédisposé à la violence, mais nous sommes le seul des pays industrialisés à enregistrer tant de décès à la suite d'attaques avec des armes à feu. » Et les constants prétextes pour l'inaction ne sont plus de mise. Le président a relevé qu'une majorité d'Américains soutiennent les mesures qu'il a prises, mais il déplore la politisation de la question, surtout en période électorale.
Un Palestinien a blessé au couteau un soldat israélien ce mardi, près du bloc de colonies de Gush Etzion en Cisjordanie occupée. Et il faut dire que ce jeune de 18 ans a été abattu par les forces israéliennes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Le Nigeria n'a pas besoin d'un prêt du FMI. C'est ce qu'a déclaré Christine Lagarde, la présidente du FMI, lors d'une conférence de presse à Abuja. Arrivée hier au Nigeria, premier pays de sa tournée africaine, Madame Lagarde a souligné la détermination et la capacité de résilience des Nigérians face à la crise du prix du pétrole qui a durement frappé l'économie du pays. Et elle s'est félicitée de la teneur de ses entretiens avec le président Buhari. Elle a par ailleurs affirmé qu'il ne lui appartenait pas d'approuver ou de désapprouver le budget nigérian d'un équivalent de 28 milliards d'euros annoncé le mois dernier. Selon les analystes financiers de l'agence Hudson & Company, c'est le moment ou jamais d'acheter des actions de la société ivoirienne SAPH, Société africaine de plantation DVA. Bien que fragilisée par un jeu de dominos dont le point de départ est le ralentissement de l'économie chinoise, la SAPH n'en conserve pas moins une certaine attractivité. Le bilan de l'année 2015 devrait être positif grâce à une combinaison de facteurs. Les actions SAPH s'échangent en ce moment à 10 360 francs CFA, leur plus bas niveau depuis 5 ans, dans un contexte où le caoutchouc est à son plus bas, en attendant l'inévitable reprise. Après Ruzizi 1, construit en 1958, et Ruzizi 2 en 1989, les travaux pour la construction d'un nouveau barrage électrique baptisé Ruzizi 3 devraient commencer cette année. La centrale, financée par la Banque africaine de développement, la BAD, va alimenter les trois pays de la communauté économique des Grands Lacs, le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda.
Voilà, c'était la Minute Éco avec Anastasie.
On passe tout de suite au sport avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
Alors football, de nouvelles sanctions de la FIFA contre l'ex-secrétaire général de l'organisation.
Oui, la saga n'en finit pas. La justice interne de la FIFA a requis aujourd'hui 9 ans de suspension et une amende de 100 000 francs suisses contre l'ex numéro 2 de l'organisation, Jérôme Valcke. Celui-ci avait été relevé de ses fonctions depuis septembre dernier. La presse anglaise a impliqué M. Valcke dans une affaire de revente de billets au marché noir lors du Mondial 2014 au Brésil.
Le Real Madrid est doté d'un nouvel entraîneur depuis hier.
C'est Zinedine Zidane, le mythe du football français. Dans une ambiance familiale, Gabi, Zidane a été chaudement applaudi aujourd'hui au cri de « Zizou, Zizou » par les quelques 5000 personnes massées au centre d'entraînement du club. Il a la responsabilité de ramener vers les sommets le Real, géant planétaire aux 10 couronnes de champion d'Europe. C'est un challenge qui est certainement difficile, mais qui m'anime, a résumé Zidane lors de sa présentation à la presse.
Et Pep Guardiola veut entraîner en Angleterre.
L'actuel technicien des Bavarois dit avoir besoin de nouvelles expériences, de nouveaux stades, de nouvelles villes et de nouvelles personnes à connaître. Mais la seule et unique raison du départ du Catalan en Angleterre, c'est relever le défi de la Première Ligue, a-t-il déclaré sans toutefois préciser sa nouvelle destination, donc son club, son nouveau club.
Oui, et au tableau des transferts, Eric, on parle de Kevin Prince-Boateng qui est de retour à l'AC Milan.
C'est un retour au bercail. Boateng, il a déjà évolué à Milan de 2010 à 2013. Le milieu de terrain international ghanéen s'entraînait depuis plusieurs semaines avec Milan après avoir résilié son contrat avec le club allemand de Schalke 04.
Et le Gabonais Aubameyang pourrait quitter Dortmund.
Oui, meilleur buteur de la phase aller de Bundesliga et convoité par des grands d'Europe, Pierre-Emerick Aubameyang serait notamment dans le viseur d'Arsenal. Cependant, le Gabonais est en contrat avec Dortmund jusqu'en 2020.
Et merci Eric Manirakiza pour cette page sport. Disons seulement qu'en NBA, Golden State Warriors reste invincible à domicile.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Morgane Guériac et Chérubin Dorsil, place au dossier du jour.
Première escale, Bangui, où une vingtaine de candidats à la présidentielle du 30 décembre continuent de contester les résultats partiels du premier tour. Parmi eux, l'ancien ministre Karim Mekassoua, Pascaline Magali, l'adjoint à Bangui.
Tout le monde avait salué la bonne tenue des élections le 30, mais c'est le processus en cours de collation, dépouillement et de diffusion de certains résultats, compte tenu de ce que certains candidats avaient des chiffres en leur position, inscrits sur des PV et l'ANE diffusait d'autres chiffres. Et ils étaient en droit de se poser la question d'où venaient ces chiffres qui ne concordaient pas. Évidemment, certains ont commencé à rechercher, ils se sont rendus compte qu'il y a des PV qui ont disparu également, que les urnes qui venaient des provinces étaient laissées quasiment sous scellés et ça posait des sérieux problèmes. Et à l'initiative d'un des candidats, car les grognes commençaient dans les différents états-majors, nous nous sommes retrouvés pour dire attention, il ne faut pas que cette situation dérape. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à une approche concerté.
Pouvez-vous nous faire le point sur votre rencontre de ce matin avec le président du CNT ?
À sa demande, il souhaitait nous écouter, il souhaitait voir ce qui motivait notre position. Il s'est même présenté personnellement comme étant un responsable de parti politique et qu'il avait des requêtes à formuler en tant que parti politique, même parce qu'il y avait des irrégularités, ce que nous avons reconnu effectivement comme relevant de notre démarche. Alors, fallait-il aller individuellement ou collectivement ? Et nous nous sommes félicités du fait que, à partir du moment où cette démarche était collective, on avait plus de chances d'être entendu. Et il nous a compris, il a dit effectivement, vous êtes toujours dans la légalité, mais il appartenait à la Cour constitutionnelle de vérifier la recevabilité de requêtes et si c'était le cas, d'annuler partiellement ou totalement. Et vous savez, je suis républicain et je ne visais aucunement l'annulation de ces élections. Même s'il y a des irrégularités et ces irrégularités sont incriables, à partir du moment où je dépose des requêtes et ces requêtes-là sont validées et acceptées, là oui, vous verrez mes résultats augmenter de façon spectaculaire.
Voilà, c'était Karim Mekassoua, candidat à la présidentielle centrafricaine du 30 décembre.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie estime que le fichier électoral pour la présidentielle du 21 février est fiable sous réserve de la suppression de plusieurs centaines de mineurs et de bureaux de vote illégaux. C'est ce qu'a déclaré le général malien Siaka Sangaré, chef de la mission des experts de l'OIF, qui a audité le fichier contesté pendant une semaine à la demande de la Commission électorale nationale indépendante. Idrissa Seloudia a contacté Houssaini Salatou, il est porte-parole de l'opposition nigérienne.
Notre réaction au niveau de l'opposition, c'est une réaction de satisfaction. Satisfaction à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que nous avons, vous rappelez, rejeté ce fichier, parce que nous avons estimé que ce fichier-là n'est pas stable, ce fichier n'est pas fiable. À travers ce doute-là, effectivement, l'audit a révélé que ce fichier n'est pas fiable sur la base des anomalies qui ont été relevées, qui sont extrêmement multiples. La deuxième satisfaction porte sur le fait que nous avons dit qu'on peut bel et bien auditer ce fichier sans que les délais constitutionnels ou les délais légaux ne soient entamés. Ce qu'avait refusé le gouvernement, parce que le gouvernement avait pensé que l'opposition était en train de faire du dilatoire pour l'amener dans une période de transition. Aujourd'hui, le fichier a été audité et les délais constitutionnels n'ont pas été entamés. La preuve, le président de la CENI a dit que, plaise à Dieu, ils vont respecter les délais constitutionnels, les corrections vont être faites et les décisions des quatre vont commencer en temps opportun.
Comment expliquez-vous ces anomalies ? Est-ce le résultat d'une tentative de fraude ou tout simplement des raisons techniques ?
Il faut reconnaître qu'à un certain niveau, il y a des raisons techniques. Honnêtement, il y a des raisons techniques par rapport aux gens qui n'ont pas de lieu de naissance ou d'acte de naissance. On peut supposer que fait-on un nom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne un exemple. Quand l'informaticien vient, l'agent de saisie, il prend un village, il met le chef du village qui est né dans tel village, et les autres, il ne met pas qu'ils sont nés dans le même village, il fait des tirés. Donc ça, on peut corriger. Mais il y a des situations où ce sont véritablement des tentatives de fraude, notamment les 323 bureaux de vote.
Et maintenant, tout est réglé, vous allez aux élections sans problème.
Le responsable de l'audit régional Sangaré a bel et bien dit que le fichier est acceptable et fiable sous réserve des corrections. Et c'est pourquoi, pour paraphraser nos amis burkinabés, ils disent c'est bon, mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé parce qu'on attend que ces corrections soient faites. Nous sommes optimistes, nous pensons que ces corrections vont être faites. Nous sommes véritablement optimistes parce que nos gens font partie des observateurs qui sont en train de faire ces corrections. Et même ce matin, ils nous ont dit que ces corrections ont commencé. Et nous pensons que les conditions, en tout cas en ce qui concerne les fichiers, les conditions vont être réunies pour que nous puissions partir aux élections dans des conditions acceptées et acceptables par tous.
De Niamey Hosseini Salatou, porte-parole de l'opposition nigérienne.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
En Algérie, le projet de nouvelle constitution a été dévoilé ce mardi par Ahmed Ouyahia, chef de cabinet du président Abdelaziz Bouteflika, au cours d'une rencontre avec la presse. La nouvelle constitution réintroduit la limitation des mandats présidentiels à deux. Pour en parler, John Lyndon a joint Saïd Bouzeta. Il est directeur de la rédaction adjoint au quotidien L'Expression. Il parle tout d'abord des principaux changements introduits par le projet de constitution.
D'abord, il y a la constitutionnalisation de la langue amazigh. Ensuite, il y a le non-cumul des mandats, c'est-à-dire que le mandat présidentiel n'est renouvelable qu'une seule fois. Et puis, il y a aussi le rôle de l'opposition est très largement conforté au sein de l'Assemblée nationale populaire. Voilà.
La nouvelle constitution, vous l'avez dit, réintroduit dans la limitation des mandats présidentiels à deux, c'est l'article 74. Cette disposition avait été annulée en 2008 pour permettre à Bouteflika de briguer un troisième mandat en 2009. Comment jugez-vous cette réintroduction?
Eh ben parce que à la décision donc de supprimer cette mesure en 2008, ça a provoqué ça a déplu à l'opinion nationale, ça a déplu à la société politique algérienne, et ensuite bon, le président de la République a dû s'apercevoir de cette erreur là et vraisemblablement elle a été corrigée avec cette nouvelle constitution.
La langue amazigh devient langue nationale. Quelle est l'importance de cette disposition?
Elle est très importante. D'abord parce qu'elle ouvre des perspectives officielles et très sérieuses à la langue amazigh. Ça lui permet d'avoir sa propre académie. Ça lui permet aussi sur le plan technique, donc en matière de calligraphie, enfin de comment on appelle ça, c'est-à-dire que son écriture, sa grammaire, tout ça doit être normalisé et homogénéisé pour que la langue amazigh puisse être enseignée au niveau national et pour que cela soit la seule langue avec la seule grammaire qui soit enseignée au niveau national. Cela au plan strictement technique, mais au plan politique, c'est très important parce que cette revendication a été... parce que l'officialisation de Temazirt a été une revendication de longue date qui date déjà des années 60 et des générations de militants ont défendu cette option et voilà que ça c'est une victoire de tous ces militants et de ces millions d'Algériens qui voulaient absolument que Temazirt soit officiel et national.
Le journaliste algérien Saïd Bouzeta.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
coup d'envoi aujourd'hui en France des commémorations des attentats qui ont meurtri Paris l'année dernière. Un hommage aux victimes des attaques djihadistes de janvier 2015 contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo, des policiers et des juifs. Attaque qui avait fait 17 morts. Isha Sarraï a joint Christophe Deloire, président de Reporters sans frontières.
L'enquête a très vite mis en évidence que les actes avaient été perpétrés par deux jeunes Français, deux frères, qui avaient même laissé sur place dans une voiture une carte d'identité, donc ça avait permis très rapidement de les identifier. Deux jeunes gens qui avaient fait référence au fait qu'ils avaient pris leurs ordres au Yémen, auprès de Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Al-Qaïda qui d'ailleurs, dans sa revue Inspire en 2013, avait placé Stéphane Charbonnier, le patron de Charlie Hebdo, sur une liste noire, et Al-Qaïda qui, dans le numéro 14 de sa revue Inspire, à l'été 2015, donc après Charlie Hebdo, mais avant les derniers attentats, menaçait à nouveau le journal en disant « Si vous recommencez, nous reviendrons ». Il y a très clairement une mondialisation de la menace qui a été mise en œuvre contre Charlie Hebdo, comme l'a dit Riss, le patron de Charlie Hebdo. C'est la guerre qui est venue à Charlie Hebdo, alors que Charlie Hebdo n'a jamais fait la guerre à personne.
Des mesures spéciales ont-elles été prises depuis le drame pour protéger les journalistes ?
Depuis le drame, des mesures immédiates ont été prises pour protéger les rédactions en France, d'autres lieux sensibles, des lieux religieux, mais surtout pour protéger les journalistes de Charlie Hebdo. La menace d'Al-Qaïda ou d'autres mouvements djihadistes, elle pèse toujours au-dessus de la tête des journalistes qui, d'ailleurs, ont déménagé la rédaction, qui viennent de rejoindre une rédaction ultra sécurisée, hein, une espèce de bunker. C'est assez terrible de voir comment un journal satirique, humoriste, comme Charlie Hebdo est obligé de vivre. Et quand on rencontre Riss, on s'aperçoit que c'est un véritable convoi. Il est accompagné d'un convoi policier. On vous demande, lorsqu'il vient vous rendre visite, de ne pas le voir au deuxième étage, mais au troisième étage, pour qu'il soit mieux protégé. C'est très impressionnant à quel point des mesures de protection sont mises en place en sa faveur. C'est le cas maintenant pour beaucoup de dessinateurs en Europe. Pour d'autres journalistes, il y en a beaucoup sous protection, et notamment tous ceux qui sont sur les listes noires d'Al-Qaïda.
Les journalistes sont plus la cible des terroristes depuis le drame ?
Ce qui est très clair, c'est que les terroristes, les mouvements djihadistes s'en prennent à des journalistes ou des dessinateurs au bout du monde. Évidemment, de nombreux journalistes ont été abattus en Irak et en Syrie. Si on regarde le bilan 2015, les pays où le plus de journalistes ont été tués dans le monde, c'est d'abord l'Irak, ensuite la Syrie et en troisième, la France.
On écoutait Christophe Deloire, président de Reporters sans frontières.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Lionel Gaïma. Présentation chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec.
Merci Wagner Robert à la console. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.